bienvenue. Vous écoutez Droit vers l'Europe, une série de podcasts proposés par le ministère de la Justice pour aider les professionnels du droit à appliquer la législation de l'Union européenne. En compagnie d'un expert, nous revenons sur une procédure en matière familiale, civile et commerciale. Il partage avec nous son expérience pour une meilleure application des règlements européens. Bonjour Karima Zouaoui, vous êtes première vice-présidente chargée de la coordination du pôle civil au tribunal judiciaire d'Evry. Grâce à votre expérience de point de contact du réseau judiciaire européen, vous avez une connaissance pratique des instruments européens de coopération. Pour commencer, pouvez-vous nous parler du règlement d'obtention des preuves ?
Bonjour, merci pour votre invitation. Alors le règlement obtention des preuves de 2001 est né le même jour que le réseau judiciaire européen, ce qui n'est pas anodin. Il est venu dépasser, je dirais, les mécanismes qui avaient été mis en place par la Convention de La Haye de 1970, qui prévoyait que les mesures d'instruction se faisaient via les autorités centrales. Et quand je dis qu'il vient la dépasser, il vient la dépasser en nombre, puisque la Convention de 70 ne s'adressait qu'à 11 États, et que là, ce règlement vient s'appliquer à tout l'espace judiciaire européen, fondé sur, depuis tempéré sur la reconnaissance mutuelle et la confiance réciproque, et qu'il vient ainsi poser le principe selon lequel une juridiction requérante d'un État membre peut solliciter une juridiction d'un autre État membre, la juridiction requise, pour exécuter une mesure d'instruction du type audition d'un témoin, du type recueil de preuves, du type mesure d'expertise. Donc la grande nouveauté de ce règlement, c'est la mécanique de juridiction requérante, juridiction requise, à travers ce que les professionnels du droit, magistrats, avocats, huissiers, notaires, appellent la culture des formulaires passeport, puisque chaque demande au terme de ce règlement est formulée au travers d'un formulaire qui est traduit dans toutes les langues disponibles sur le site du réseau judiciaire, et qu'il suffit de remplir ces rubriques avec les éléments que vous souhaitez dans la langue requise et de transmettre ce document. La deuxième innovation de ce règlement, c'est la possibilité pour une juridiction qui est donc la requérante, d'exécuter directement un acte dans un autre État membre en sollicitant l'autorisation de l'autorité centrale, avec des modalités définies par le règlement, le lieu où ça se produit, la présence ou non d'agents consulaires, la présence ou non d'interprètes, tout un tas de détails, de modalités pratiques qui sont excellemment expliquées dans le règlement et dans le guide pratique du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Enfin, ce règlement pose le principe que l'exécution doit se dérouler par le moyen le plus approprié, le plus rapide. Il fixe un délai de 90 jours. Dans la pratique, quel est le constat ? Ce règlement a été peu utilisé dans les différents États membres. Les demandes ont été formées par courrier, parfois par fax, assez peu par voie électronique, par courriel. Donc la Commission européenne, qui procède pour tous ces règlements à une évaluation à l'issue d'une première période, nous sommes quand même déjà à 16 ans d'application du règlement, décide de confier l'évaluation de ce règlement à un cabinet d'audit. Et en 2017, et finit par s'inscrire dans le processus de révision de ce règlement, cet audit ayant mis en évidence la nécessité que le règlement pourrait être beaucoup plus usité en ayant recours aux outils numériques. Donc, elle s'est inscrite dans le projet de refonte à partir de 2018 pour aboutir en 2020 à un règlement qui est daté du 25 novembre, publié au Journal officiel du 2 novembre 2020.
Il y a donc un nouveau règlement qui entre en vigueur au 1er juillet 2022.
Oui. En effet, la refonte est donc intervenue à travers ce règlement du 25 novembre, publié au Journal officiel du 2 décembre 2021. Et si l'on devait résumer les objectifs de ce nouveau règlement, c'est plus facilement, plus directement, plus rapidement, mais de façon sécurisée. Pourquoi plus facilement et pourquoi plus rapidement ? Puisque l'Union européenne et la Commission a soumis l'inscription de ce projet dans le cadre d'ICODEX. ICODEX est donc une déclinaison de e-justice, Communication via Online Data Exchange, qui signifie qu'une forme de réseau collectif va se mettre en place pour sécuriser la circulation de ces demandes entre les juridictions des États membres. Alors, la question aujourd'hui n'est pas tout à fait tranchée de savoir si ce sont des systèmes nationaux qui seront rendus interopérables ou si la Commission proposera un produit totalement clé en main de circulation sécurisée de ces demandes, mais ICODEX et le règlement, mais plus particulièrement le règlement, pose le principe de la communication par principe électronique des demandes. Là où auparavant, dans le passé, on passait par courrier, par fax, et que les courriels n'étaient pas forcément admis. Donc là, on bascule sur un principe de communication des documents, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'exécution entre juridictions ou de l'exécution directe, par l'outil numérique. Première observation. Seconde observation. Le règlement, on va y revenir, hein, s'empare des outils numériques, mais il veut aussi renforcer l'attractivité de ce règlement, je le disais tout à l'heure, peu usité. Et pour cela, il élargit la notion de juridiction, et puis il élargit aussi le champ de l'exécution directe dans les États membres. Et l'exécution directe est élargie parce que l'autorisation qui était auparavant demandée à l'autorité centrale dans un délai de 90 jours, bascule à 45 jours, et surtout, première demande 30 jours, deuxième rappel 15 jours, et à défaut de réponse dans le délai de 15 jours, cela vaut acceptation.
Le règlement favorise donc le recours aux outils numériques. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant la circulation des demandes se fera numériquement. Et la deuxième chose, c'est que s'agissant de l'exécution directe et même parfois entre juridictions, on privilégiera la vidéoconférence ou la visioconférence selon l'état où on se trouve. Pourquoi ? Pour faire face effectivement aux états qui utilisent beaucoup la procédure orale et qui auditionnent beaucoup de témoins. Il est vrai que le juge de la juridiction requis dans le passé et qui devait entendre une partie et qui décidait d'avoir recours à la visioconférence, se trouvait là assis à attendre que son collègue de l'autre côté de la frontière entende les débats sans beaucoup y participer. Donc au fond, le fait de généraliser le recours à la vidéoconférence rendra encore plus rapide, plus direct et plus effectif l'exécution de cette mesure d'instruction.
Avez-vous des exemples pratiques à nous donner ?
Oui, J'ai connu bien sûr des exemples en maquettée de points de contact et arrivé en juridiction, j'ai quand même été assez étonnée d'en recevoir assez peu de mes collègues européens. Mais j'en ai reçu. Alors, une chose qui étonne toujours nos collègues, c'est que la France a déclaré le tribunal judiciaire, l'ex-tribunal de grande instance, comme juridiction requise, y compris pour la matière commerciale. Donc parfois, nous sommes contraints de mener des mesures d'instruction dans une matière qui n'est pas la nôtre et qui relève du tribunal de commerce. Parfois, nous avons aussi des demandes qui peuvent nous sembler à nous, Français, très étonnantes, d'audition de témoins, là où ces questions pourraient nous sembler, si je reprenais un terme anglais, « irrelevant », pas pertinentes. Et pourtant, il faut les faire. Donc parfois, nous posons des questions qui, dans notre culture juridique, sont assez étonnantes. Mais je rappelle que nous sommes tenus d'exécuter ces mesures tant que les garanties procédurales sont respectées, hein. Nous sommes dans un espace de confiance. Je le disais tout à l'heure, les principes fondateurs, c'est la reconnaissance mutuelle, la confiance réciproque, une décision française égale une décision lettonne quand elle circule. Et donc, nous sommes soumis à cet exercice d'exécuter ces mesures, même si parfois nous sommes un peu étonnés de la méthode. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le recours plus généralisé à la méthode directe et à la vidéoconférence.
Merci Karima Zouaoui.
Merci à vous, merci pour ce petit moment pour évoquer notre avenir, celui des générations futures, dans un espace où ils circuleront librement, de façon sécurisée et en disposant d'une prévisibilité sur leurs droits, parce que les nouvelles générations se marient, font des enfants et entendent vivre dans un espace aussi fluide et intégré qu'est l'Union européenne.
Les podcasts Droit vers l'Europe du ministère de la Justice sont cofinancés par la Commission européenne. Retrouvez tous les épisodes sur justice.gouv.fr et sur les plateformes d'écoute.